Secret commence dans le quatrième salon que je visite. Quand elle me reçoit chez elle, c'est à chaque fois la même disposition. Deux fauteuils sont installés devant la fenêtre. Elles occupent celui de gauche. L'autre est libre, prêt à recevoir une visite. Elles sont veuves, sont nées il y a presque 100 ans, et regardent à travers cette fenêtre qui donne sur la rue, connectées. Elles me chuchotent. C'est caché, c'est délicat, c'est secret.
Vous êtes née en quelle année ?
1925.
En 1937. Bon, on vivait dans la nature, c'était un petit hameau de 5-6 maisons.
On aurait bien aimé aller à la veillée, comme on disait.
On ne sortait pas de notre trou, alors on ne savait pas grand-chose.
Il y avait un bois tout près, on allait chercher du bois.
J'aurais aimé aller à l'école ménagère, là, mais je n'ai pas pu, hein, avec les... Enfin, elle s'occupait des petits.
Ça, je pense qu'elle était assez olé-olé, assez libre.
Je savais qu'on disait qu'il y en a qui se faisaient avorter, je ne sais pas comment. Si on ne savait pas trop, hein. C'était discret tout ça. On n'avait pas la pilule, alors il fallait vraiment faire attention, quoi. Les personnes qui se faisaient avorter, c'était secret. Je me suis toujours demandé comment ça se faisait, hein, avec des aiguilles à tricoter. Alors, c'était pour faire quoi? Piquer quoi? Piquer l'enfant? Piquer le sperme?
Les langues se délient et causent corps. Il y a une erreur, un bug. On ne voulait pas que ça arrive, ça ne devait pas arriver. On s'organise et on fait circuler les informations. On utilise des pratiques alternatives, transmises par d'autres. Certaines accompagnent.
Alors, bien du village, il y avait une avortée. Les gens connaissaient l'adresse quand elles voulaient se faire avorter, déjà. Alors comment elles faisaient ces femmes, la plupart du temps, avec une aiguille à tricoter? D'où l'expression, elle s'est fait tringler. Et quand j'ai commencé mes études, 15 jours après, j'ai vu une femme de mon pays qui est morte du tétanos parce que justement, il n'y avait pas les règles d'hygiène appropriées. Certaines le faisaient, mais pas toujours, vous voyez. Autrement, il y avait un médecin qui faisait ça dans son cabinet, les femmes repartaient tout de suite après. Et il y en a certaines qui étaient malades. J'ai une amie à minuit qui m'avait téléphoné parce qu'elle avait beaucoup de température, elle était allée le matin. Et puis, elle n'osait rien faire parce que c'était puni par la loi quand on était avorté, quand on se faisait avorter. Alors, j'ai quand même conseillé d'aller en clinique et j'ai dit, mais non, on ne va rien faire, c'est pas dans la clinique. Les femmes, elles prenaient aussi des tisanes pour empoisonner le fœtus. Des tisanes de persil. Les tisanes de persil qui poussent dans les jardins, alors des fois, ça empoisonnait un peu. Le bébé, mais les femmes avaient des problèmes aussi. Hein. Il y avait une pharmacie qui délivrait un produit qui aidait à avorter. C'était bien connu. C'était illégal, tout était illégal. Hein. Tout ça, c'était illégal. Mais ça, alors, elles savaient que si, par exemple, elles avaient expulsé des tuches, on pouvait faire un curetage. Alors, elles arrivaient à la maternité avec quelque chose qu'elles avaient expulsé. Je me souviens d'une femme qui avait ramené un squelette d'oiseau parce qu'elle dit voilà ce que j'ai expulsé. Puis en tant que sage-femme, on était souvent sollicités, hein, pour faire des avortements clandestins. Mais il y en a peut-être qui faisaient, mais moi je ne faisais pas. Il y en a certainement qui faisaient. Hein. Il y en a c'était pour rendre service, il y en a c'était pour se faire de l'argent. Sinon, les femmes allaient en Suisse, en Belgique, et la même qu'elle est en Angleterre. Alors, quand c'était pas très loin, ou même quand c'était les gens du coin, elle fallait vendredi soir pour pouvoir retravailler le lundi. J'étais bien contente que la loi sur l'avortement arrive, parce que on trouverait vraiment des cas en maternité épouvantables. Les pauvres femmes, elles avaient le droit de choisir si elles voulaient un enfant ou pas, d'autant plus que la contraception n'existait pas, elles ne savaient pas même comment elles faisaient un enfant. Ça leur explique des fois en cas d'accouchement, par où sortait le bébé, elles ne savaient même pas. Elle croyait des fois que l'enfant sortait par le nombril. Oui, il y a plein de choses comme ça qui m'a amenée à aller dans les écoles, parler de tout ça, et puis même dans les établissements scolaires. Oui. J'en ai même fait à l'armée, vous voyez. J'ai bien aimé mon métier pour ça, oui. À l'époque, les femmes avaient 14, 15 enfants. Elles savaient pas, oui, elles ne savaient pas du tout comment faire, bien sûr, pour ne pas avoir d'enfants. C'est pour ça qu'elles utilisaient n'importe quoi pour échapper à ça, quoi. J'avais des méthodes qu'elles utilisaient plus ou moins. Il y en a par exemple, on appelait ça des mignonnettes, c'était des petites éponges, quand qu'elles mettaient un peu de vinaigre, qu'elles mettaient dans le vagin pour ne pas avoir d'enfants. Alors ça marchait un petit peu, voilà. On appelle ça des mignonnettes. Je me dis, le plus grand bienfait chez la femme, c'est l'histoire de la contraception, hein, parce que elles ont été un peu libérées de tout ça. Vous savez, quand arrivait l'époque des règles, elles n'avaient pas leurs règles, elles s'angoissaient. Hein.
Le bug à l'intérieur du système personnel devient politique. D'un côté, on s'attaque au corps. On l'examine, le juge. Le phénomène abstrait et complexe qu'il était devient une barrière physique, une suite de codes et de caractéristiques spécifiques, dangereuses. De l'autre côté, on s'attaque aux lois. On ruse, on contourne, on s'entraide.
Alors moi, je suis une militante féministe historique, on dit maintenant, aujourd'hui, on dit ça comme ça, ça fait bizarre. Hein. Et en effet, j'ai contribué aux luttes pour le droit à l'avortement et l'accès à la contraception, qui pour nous commence au début des années 70, ici en Suisse. En France, le droit est passé qu'en 75, ici en Suisse seulement beaucoup plus tard, soit en 2002, mais on avait quand même une interprétation de la loi qui était plus avantageuse, parce que ça disait que si la santé de la mère est en danger, c'est envisageable. Et donc, selon la définition de l'OMS, certains cantons accédaient à l'avortement moyennant une expertise d'un médecin qu'on appelait un expert. Donc, si c'est des personnes non résidentes ici, devaient passer devant une commission qui décidait si elles allaient être acceptées ou pas. C'était assez sordide comme chose. Ça se passait à la maternité de Genève, et puis celle qui se faisait refuser, ben, se faisait facilement repérer dehors parce qu'elle pleurait en sortant. Donc il y avait des personnes qui les approchaient, puis qui les emmenaient sur France pour poser une sonde, et puis les faire revenir le lendemain en urgence avec un saignement, quoi. J'ai aussi participé avec d'autres d'ici au MLAC en France. Donc le MLAC, c'est le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception. Il y avait quand même une cinquantaine de groupes qui faisaient des avortements clandestins à l'époque, et nous, on travaillait avec Annecy, qui est la ville la plus proche. Et donc, en Suisse, à la fin des années 60, quand même, on pense qu'il y avait, d'après le professeur Stamm, qui avait fait une enquête là-dessus, on pensait qu'il y avait environ 10 000 avortements clandestins par an, avec quand même une morbidité et une mortalité conséquente. Hein. C'est vrai que ça avait fait un scandale quand il avait sorti ça, parce que ça voulait dire qu'il y avait plein de personnes qui se retrouvaient ou stériles, ou voire même qui en mouraient, donc c'était quand même assez cata. Puis c'est un peu ça qui a permis de relancer encore une fois le débat pour finir par y parvenir. C'est très important de documenter ça aujourd'hui, à mes yeux, parce que pour les jeunes qui ont l'accès à l'avortement aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'elles croient que ça coule de source, ni qu'elles croient qu'on peut ne pas le perdre, parce qu'on peut le perdre. Si l'extrême droite, elle prend le pouvoir, on ne sait pas. On voit la Pologne, on voit certains États aux États-Unis, vous avez vu le Texas, enfin, qui ont changé de loi et tout, donc c'est jamais acquis. Donc c'est hyper important que ça se sache comment ça se passe. Il y a une question de classe qui se pose, c'est-à-dire qu'il y a le coût, et puis il y a les contacts, c'est pas donné à tout le monde. Donc toutes les femmes des couches populaires, si vous voulez, ben, elles ne s'y prenaient pas comme ça, parce que elles n'avaient pas les moyens d'accéder à ces circuits. Et certains gynécos étaient corrects. Nous, ce qu'on trouvait correct à l'époque, c'était 600 francs. Bon, 1000 francs, ça allait encore. Et puis après, ça pouvait monter à 2000 pour un geste qui dure 10 minutes. En fait, les gynécos pouvaient facilement profiter de la détresse des femmes pour faire monter le coût, quoi. Donc c'était pas accessible à tout le monde, donc les femmes des couches populaires, forcément, les faisaient un peu elles-mêmes, les avortements. Donc il y a eu un témoignage, là, justement, en Haute-Savoie, milieu agricole, on va dire, comme ça, Le mari, il s'en foutait complètement de la contraception. Parce qu'il y avait quand même les préservatifs à l'époque, hein. Faut quand même... il n'y avait pas rien. Mais lui, il s'en foutait complètement. Oh, c'est ton problème, t'as qu'à te débrouiller. Et puis bon, voilà, milieu populaire, ben, il ne se débrouillait pas trop bien, ce qui fait qu'elle s'en est fait quand même 5 sur elle-même. Essayer d'insérer quelque chose dans l'utérus, essayer d'injecter quelque chose dans l'utérus, c'est assez dramatique comme chose, hein. Mais elle s'en est bien sortie. S'en est relativement bien sortie parce qu'elle n'était pas stérile après chaque fois, puisqu'elle retombait enceinte. Donc, alors ça leur donne quand même une sensation de pouvoir, quoi, d'être capable. Mais en même temps, ce qui est très décourageant, c'est le manque de solidarité avec l'époux. C'est quand même assez pathétique, quoi, de pas arriver à se comprendre à ce point-là. C'est quand même un peu cata, quoi. Mais il y avait quand même les aiguilles à tricoter, il y avait les cintres de, vous savez, les cintres en métal comme ça. On peut les démonter puis employer ça. Donc elles avaient quand même compris qu'il fallait s'insérer dans l'utérus pour essayer de provoquer un décollement de la muqueuse, pour essayer de provoquer une fausse couche. Mais parfois c'était des moyens vraiment assez brutaux, quoi. Il y en a une dont nous est resté le souvenir. Elle était logée dans une commune à la rue de Lyon, bien accueillie, bien cocolée. Alors voilà, on l'accompagne à la commission. On répète à l'avance comment on va raconter son truc, hein, comment on va pleurer sa larme, comment on va dire qu'on est dans une détresse grave et que vraiment c'est impossible, impossible de chez impossible. Et elle l'obtient. Et elle rentre à la commune, elle mange avec les copines. Elles disent, ben, maintenant que je l'ai obtenu, eh ben, je décide de garder la grossesse. Parce que ce que je voulais, c'était avoir le choix. Tant que je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas décider. À l'époque, c'est est-ce qu'il y aurait des alternatives à l'IVG chirurgicale. Donc à l'époque, il n'y a pas d'IVG médicamenteuse. On a tout essayé. On a essayé les plantes médicinales, le massage du tissu conjonctif, les points d'acupuncture. Et comme on avait le dispensaire des femmes, donc c'était un centre de santé de femmes pour les femmes, on pouvait essayer ces choses avec les femmes qui étaient intéressées. Donc parmi les choses qu'on a essayées, on a décidé de faire une recherche sur des plantes potentiellement abortives ou héménagogues. Donc héménagogues, c'est qui fait venir les règles, hein. En fait, nos plantes, sous les posologies qu'on employait, étaient des bonnes héménagogues, mais elles n'étaient pas abortives. Pourtant, potentiellement, il y en avait une ou deux, donc, entre autres le pouliot et le cotonnier, qui potentiellement le sont. Puis l'autre plante était plutôt une plante pour accompagner. Mais nos posologies étaient trop basses. Mais le problème, c'est que en travaillant un peu sur tout ça, et en prenant d'autres témoignages, c'est que si on veut arriver à des posologies abortives, il faut quand même en prendre une bonne couche. C'est-à-dire que si, pour vous résumer, si il faut que l'ambiance corporelle soit suffisamment toxique pour que le fœtus se dise « dans ces conditions, je me barre », Je vais aller voir si je peux pas me réincarner ailleurs, parce qu'ici, vraiment, ça sent pas bon. Le problème, c'est quand on arrive à cette dose-là, malheureusement, on arrive aussi à une dose qui peut être toxique pour la porteuse. Mais les femmes ont quand même fait ça pendant des éternités. Hein. Je veux dire, la rue était parmi les plantes très usitées, mais justement très toxiques. Les hautes doses de vitamine C également, mais faut monter à 8 grammes par jour. Or, à partir de 5 grammes, ça commence à être toxique pour le rein. Donc, nos conclusions, ça a été que c'était pas vraiment intéressant. Bien que pour certains individus, ça ait pu marcher à certains moments, mais en montant passablement les doses, et puis en vomissant un peu, ma foi, tant pis, mais c'est possible, si vous voulez. Mais nous, on n'allait pas proposer ça, si vous voulez. On trouvait que c'était pas à nous de proposer ça. Et on est quand même arrivé aux conclusions que finalement, cet avortement chirurgical, c'était pas mal. À condition, bien sûr, d'être dans une ambiance où on est bien accueilli, où il n'y a pas d'hostilité, hein, on est d'accord. Hein. Ça dépend, il y a encore l'attitude de l'équipe qui rentre en ligne de compte, évidemment. Mais techniquement, ça reste quand même une méthode valable. Et puis, on a aussi essayé, bien sûr, les aspirations des règles. On a aussi fait ça. Donc, puisque les États-Uniennes n'étaient pas chez nous avec... leur matos, hein, nous a amené les spéculums, tout, ah là là là, puis justement ces canules pour faire des extractions de règles, on appelait ça, des extractions de règles. C'était leur grande théorie à elles, que c'était super, que c'était un moyen pour contourner la loi, de le faire donc toujours dans ces jours où on ne sait pas encore si oui, si non, si pas, si puis. Et donc nous aussi on s'y est mis, évidemment, on s'y est mis, mais on n'a pas été éminemment satisfaites. Parce que si on fait trop tôt, on risque de louper. Donc maintenant, on est quand même dans une période assez critique, dans la mesure où il y a le désengagement de beaucoup de gynécos qui ne veulent plus faire des IVG, et donc qui renvoient les femmes à la méthode médicale, médicamenteuse, hein, qui a ses avantages, mais qui a aussi ses inconvénients. Et normalement, les femmes, elles devraient avoir le choix, quoi. On devrait le avoir, comme pour la contraception, non, on devrait avoir le temps d'expliquer chaque méthode, ses avantages, ses inconvénients, et puis c'est elle qui devrait voir comment elle voit les choses.
Ce contexte de pénalisation de l'avortement est important pour comprendre le décalage dans lequel nous nous trouvons. Il y a faille juridique. Les lois ne répondent pas aux besoins, à la réalité que vit un groupe de personnes. On met de côté, on marginalise, on stigmatise, alors qu'on pourrait simplement inclure. Ce que les lois n'incluent toujours pas aujourd'hui, ce sont la pluralité des corps, des groupes de personnes qui tous ont des besoins spécifiques. La loi n'accepte pas la réalité. Le serpent se mord la queue. Alors on essaie de trouver et construire des espaces où l'on se sent bien, où l'on s'écoute. Des communautés qui accueilleront tous les corps, qui sont attentives au monde qui les entoure, pour ne pas s'enfermer dans des systèmes de pensée. 0, 1, il y a pourtant une suite de nombres infinis. Let's celebrate.
Sisters, the wind is returning, as it always does. Sometimes it blows so hard that it carries artifacts away from ruins it tore apart. Seeds from faraway places. Trees that didn't have enough time to grow stronger. That's why you always seek a protected area to settle in, relocating when the wind blows harder. You have been doing that for years. The youngest of you have only known this world. You care for each other. You share your knowledge and try to make sense of this life together through the phases of the moon, from maiden to mother to crone. You pay attention to the world. In your community, the feminine spirit dominates, and all gender expressions are celebrated. You believe that you are all sisters, so are all the beings around you. A plant is your sister, a bird is your sister, a rock is your sister, and so is the wind. Your magic depends on it. It carries your spells, your spirits, your dreams.
Évidemment, lorsque les clients me demandent la provenance de mon pseudo, j'opte pour la version. Dans la mythologie grecque, c'est la déesse de la lune, la fille de l'aurore et du soleil. Ça fait son effet. Tout le monde ne peut pas avoir les bonnes références après tout. Aidé par la précédente danseuse, je monte sur le stage. Depuis le podium central, je surplombe la salle et le restaurant. Il y a du monde ce soir, c'est une bonne chose. Absorbé par leur conversation, désinhibé par l'alcool et que sais-je d'autre encore, ils me jettent des coups d'œil de temps en temps. Cela ne m'intéresse pas. Je virevolte autour de la barre. Ma longue robe en dentelle blanche flotte autour de moi. Je sonde la salle comme on me l'a appris. Je les repère. Ceux qui ne parviennent pas à regarder ailleurs. Je capte leurs regards tour à tour pour leur faire comprendre que je les ai vus. Sweet Dreams prend fin. Je quitte ma robe. Topless, uniquement vêtu d'un string qui surligne la courbe de mes hanches, je me sens grisé. Le désir imprègne l'air et j'ai le sentiment d'être habillé par les regards posés sur moi. Au même moment, certains observent mes pleasers, d'autres ma cambrure, ma poitrine, mon ventre, mes mains que je lève doucement au-dessus de ma tête, l'expression mutine de mon visage éclairée par un spot rose. Je n'ai jamais été aussi couverte. Pourtant, je ne suis pas le centre de l'attention. Ils sont au centre de la mienne. Ils me regardent, perdus dans leurs pensées, rêveurs. Je les observe attentivement. La troisième et dernière chanson commence. Je reconnais Nickelback à la voix angoissée du chanteur. Je jette un regard assassin au DJ. J'ai demandé du Depeche Mode. Qu'à cela ne tienne, the show must go on. Lorsque je termine, je tends la main à la danseuse suivante pour l'aider à monter sur le stage. Je récupère ma robe et je vais me rhabiller dans l'espace des salons privés. Je retourne en salle et me dirige vers un de mes admirateurs. Premier objectif, une coupe de champagne. Deuxième objectif, une danse privée ou un salon VIP. Et si ce n'est pas possible avec lui, ce sera avec le suivant ou celui d'après. Il est possible que je gagne 500 euros ce soir, ou que je ne gagne rien. Je ne le sais jamais à l'avance. Les sofas en velours rouge, l'éclairage tamisé, nos lingeries sophistiquées et la voix suave du speaker créent une atmosphère propice à la détente et au fantasme. Pourtant, toutes les danseuses ici, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, ne sauraient être certaines de repartir avec un salaire, car nous sommes rémunérés à la danse. Aussi jolies que nous puissions être, nous connaissons toutes des soirées sans clients. Je me demande souvent qu'est-ce qui me pousse à recommencer chaque soir. Qu'est-ce qui me pousse à donner mon temps et mon énergie à un travail par lequel je ne suis même pas certaine de pouvoir vivre décemment. Puis, je monte sur le stage et tout s'éclaircit. La salle me nourrit. La projection de leurs désirs silencieux sur mon corps m'alimente et me transforme en ce cube. Je me délecte de ce flux d'énergie unique avec une indolence féline. Je leur tends mes fesses qu'ils ne toucheront jamais. J'approche mon téton de leurs lèvres qui se pincent. Je ronronne et je soupire d'être à ce point inaccessible et pourtant si convoité. Calculer chacun de mes gestes, incarner tour à tour la chasseuse et la déesse. Je joue et je perds aussi souvent que je gagne, mais je joue quand même. Je bâtis un mythe qui vivra pour toujours dans leurs esprits hagards. Ce mythe vit à travers mon corps.
Les corps ont du pouvoir, les expressions donnent du pouvoir. Les corps sont en puissance, en jouissance. Ils peuvent être jeux, outils, fictions, constellations. La profondeur et les nuances qui constituent ma personne ne peuvent m'être enlevées, écrit bébé.
Qui que vous soyez, je vous invite à balancer avec moi. Quel que soit votre métier, vos choix de vie, votre sexualité, votre apparence, votre genre, car la véritable puissance féminine n'a pas de corps. C'est une énergie primordiale qui nous traverse tous pour faire de nous des sœurs lorsque nous en avons le courage. Corps profane. Il faut comprendre ceci, le corps n'a rien de sacré. Il est fait de chair, de sang et de viscères. Le corps est cette machine organique fabuleuse dans laquelle on expérimente nos vies. Une enveloppe dans laquelle on s'emmitoufle. Non, le corps n'est pas un temple, c'est la viande sacrificielle déposée sur l'autel du vécu. Mon corps, je l'use volontairement parce que je m'aime. Et c'est ainsi que je maintiens la différence entre lui, ça, et moi, je. Mon corps, je lui fais vivre d'innombrables plaisirs, parce qu'il est temporaire et périssable, et que je compte bien en profiter tant que je suis en sa possession. J'ai bien l'intention de le quitter usé jusqu'à la moelle, utilisé à outrance, vraiment bon pour la casse, sans regret aucun. Mon seul objectif dans la vie est de pouvoir accueillir la mort sereinement, la tête pleine des folies de mon vécu. Principe numéro 5 d'une salope. Ton corps n'est pas un temple. Tu es une déesse et tes désirs sont souverains. Si on désacralise nos corps de femmes, on démythifie le sexe tout court. On donne de l'importance à ce qu'il est vraiment. Vivre sa vie pleinement, en jouissant de toutes les possibilités de plaisir qui sont à notre portée. On apprend à différencier nos envies et les injonctions qui nous sont faites quotidiennement. M'émanciper des injonctions patriarcales en conscientisant mes désirs et en participant à la création et la promotion d'une société où tous les sexes sont libres. Refuser catégoriquement de juger les autres femmes sur leurs choix et voir en elles des alliés. Me respecter moi-même en accordant de l'importance à mes aspirations et mes désirs et en travaillant chaque instant de ma vie à être ma propre personne idéale. Respecter autrui et exiger le respect en toutes circonstances, indépendamment de mon apparence et de ma sexualité. Refuser d'accepter l'avilissement systémique des travailleuses du sexe en participant à détruire le caractère sacré que la société impose au corps des femmes. Harmoniser mon esprit et mon corps à travers une recherche décomplexée d'éveil et de plaisir. Tels sont les principes de la salope que je suis. Je déshabille mon corps et je le mets en scène. Généralement, derrière l'objectif de mon acolyte Tiwi Chan, je pose nue ou vêtue de latex lustré. Et cette chair qui est la mienne devient une œuvre. Ce corps crée le fantasme, certes, mais également le rêve. Il parle de mes combats, de mes douleurs, de mes aspirations, de mes croyances. Il crie mes rires, mes larmes et mes soupirs. Il est mon arme et le médiateur qui fait le lien entre moi et les autres. Je l'expose, car c'est son devoir d'être vu. Et à travers les regards qui se posent sur lui, il change de forme et de sens. Il devient un support pour l'imaginaire. Il s'agit de comprendre, puis d'accepter que la complexité de nos désirs, la pluralité de nos orientations sexuelles et de nos fantasmes ne sont pas des questions d'opinion, mais bien des faits, sur lesquels nous n'avons d'autre choix que de nous accorder si nous souhaitons réellement construire une société humaine, adaptée à toutes et à tous. Salope comprise.
There are many ways that we can think about the body, this idea of the corporeal, that has been expanded on so much across history. So for the purpose of today, though, I'd love it if you guys remain present with me for just a moment, and regardless of what comes to mind when you consider the word body, consider that the body is an idea that is cosmic, and in being such, is inconceivably vast. We quite literally have only begun to scratch the surface of what the body is, what it can do, and what its future looks like. So part of the definition or the archetype of the body as we know it, a social construct, a cultural tool, a political agent that I am drawing on when I think about glitch feminism, is this notion of giving material form to something that is abstract. We use body to give material form to something that has no form, that is abstract and as such is inconceivably vast. As a glitch feminist, I want to make abstract again that which has been forced into an uncomfortable and ill-defined material. The process of becoming material is one that is so bound up within problematics. It surfaces a tension that exists when we ask, who has given material? And further, who defines this material? Who names it? Who gives it value and why?
My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my
Au fil de ses récits, le corps et le langage sont en voyage. Ils voyagent entre des planètes, des cases, des systèmes, des lois. Ils voyagent pour avoir le droit de choisir. Ils voyagent to celebrate all gender expressions pour devenir a cosmic body. Ce voyage est parfois cyclique. Il est à différentes vitesses, générationnelles, géographiques, culturelles, sociales. Il se construit entre violence et bienveillance et se heurte à une multitude de regards et de points de vue, que nous appellerons astéroïdes. Certains de ces astéroïdes transportent des idées mortes qui ne sont pas adéquates avec la réalité que nous vivons. Bousculer les idées sur le corps, c'est bousculer des certitudes anciennes. Laisser la place aux expressions de chaque inx pour fêter un futur au corps multiple. On a entendu le son d'Earth Eater, Scripture, les voix de trois femmes et une sage-femme d'un village de l'Est de la France, celle de Rina Nissim, une gynécologue naturopathe et militante suisse, un extrait de Sisters of the Wind, une performance audiovisuelle et interactive et roleplay de l'artiste Juju Love, des passages du livre Balance ton corps de Bébé Melchor Cadior, artiste, auteur et travailleuse du sexe, lu par Stella, les fragments d'une conférence de la théoricienne et curatrice Legacy Russell, intitulée Glitch Feminism, et la musique diffusée dans le dernier épisode de la saison 1 d'Euphoria, My Body is a Cage, du groupe Arcade Fire. Cette pièce sonore a été réalisée avec le soutien et l'accompagnement précieux de Urgent Paradise.